Saviez-vous que l'autre histoire de Genève, une chronique insolite présentée par Carlo Ruexeger.
Saviez-vous de quoi était constituée l'assiette des Genevois au XVIIe siècle ? Le pain et la soupe constituent l'essentiel de la nourriture ordinaire des gens de la campagne et de beaucoup de modestes citadins. La soupe, trempée de pain bis, se mangeait plusieurs fois par jour et était considérée comme un repas complet. Partout, cette soupe est en bouillon de légumes composé de choux, d'oignons, de raves, de navets, de pois, de fèves, enfin bref, ce qu'on trouvait. À la campagne, les paysans qui travaillaient leur propre terre vivent et se nourrissent grâce à leur propre production. Les fruits, les légumes, la basse-cour, produisaient les œufs et d'autres choses. Pour certains, quelques bovins produisaient la viande et les laitages, sans oublier les porcs. Quant au surplus de leurs récoltes et autres denrées, ils étaient vendus au marché. Mais pour les plus modestes, les petits, les sans-terre, c'est la monotonie de la soupe ou un brouet qui parfois pouvait s'enrichir d'un morceau de chèvre ou d'une tranche de lard. Pour ceux-là qui n'ont rien à récolter et à vendre, résistent mal en cas de disette. Ils se nourrissent malgré tout, mais de basse qualité, bouillis de mauvais grains, de pain mêlé, les carences alimentaires font des ravages. Quant aux gens aisés, bourgeois et autres riches commerçants, ils étaient grands amateurs de poissons, d'eau douce, telles que la perche, les truites, des ondes chevaliers, des brochets, de la ferra, d'autres espèces d'ailleurs disparues de nos lacs aujourd'hui. Les produits carnés, tels que les vaches, par exemple, étaient abattus à un âge canonique. Elles n'étaient bonnes qu'à bouillir ou à braiser. Mais ce que préfèrent les Genevois, ce sont les volailles élevées ou chassées. Arrivent alors sur les tables, pas toutes bien sûr, coqs, poules, chapons, canards, perdrix, grives, faisans, etc. Certains l'accompagneront de cardons de plein palais, venus de France et devenus au fil des siècles en mets traditionnels de fête. Pourquoi cardons de plein palais ? Eh bien, simplement parce qu'il était cultivé sur l'emplacement actuel de la plaine de plein palais. Mais c'est une autre histoire. Saviez-vous que l'histoire de Genève se compose, comme partout d'ailleurs, d'une multitude de facettes qui mélangent la grande et la petite histoire ? Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je vous parlerai de cette petite histoire. Une tranche de vie se déroulant à Saint-Gervais en est un des exemples. Prenons ce savetier, artisan chausseur de la rue Coutances, angle rue des Étuves dans les années 20. 1920, je précise. Il avait pour habitude, pour attirer le chaland, de suspendre sur les côtés de son échoppe un inventaire de son travail. Bottines, mules, bottes, bref, l'échantillonnage à disposition. Pour ce faire, et pour éviter des vols, il ne présentait qu'une chaussure de chaque paire. Un beau soir de mai, l'artisan, s'apprêtant à fermer boutique, constata en rentrant son exposition qu'une chaussure avait disparu. Qui avait bien pu chaparder un seul soulier ? Un unijambiste, un soldat sorti des tranchées, de la Marne, amputé d'une jambe ? Ou tout simplement un plaisantin, mystère. Intrigué, le bottier, finalement amusé, imagina un stratagème astucieux fait de bouts de ficelle, de fils de fer, terminé par une clochette. Le lendemain matin, il ressortit ses présentoirs et lia à la chaussure gauche qui lui restait le dispositif qui devait l'alerter. Il avait malicieusement pensé que le ladre repasserait sans doute pour se munir de l'eau de godasse. Le piège fonctionna. La clochette retentit dans son magasin, et ni une ni deux, il se précipita dans la rue pour découvrir le fautif. Il se retrouve année à année avec un pauvre air, le cheveu en bataille, maigre, les pieds enveloppés de chiffon, un manteau trop grand pour lui, sale et rapiécé. Il parvint à retenir l'escrogriffe qui désirait fuir et tenta le dialogue. Cette farce commençait à prendre une tournure qu'il n'avait pas prévue. La rue trépassante à 7 heures du jour attira les badauds et de s'attrouper autour des deux hommes. Si bien que la rumeur enfla, ce qui vit intervenir les gabelous et après quelques palabres emmenèrent le larron, manu militari, à Saint-Antoine. Suite à cet épisode, le chausseur, le calme revenu, se trouva fort contrit et un peu honteux. Ce qui, au départ, n'était qu'une galéjade pour pincer l'indélicat et lui dire son fait. Mais voilà, que ce pauvre type, pour lequel il avait plus pitié qu'autre chose, se trouvait en tôle pour une malheureuse paire de pompes. Le lendemain matin, il fut convoqué au tribunal. Il fut introduit dans la salle et retrouva entre deux gendarmes le dadais imprudent, toujours blême, la tête basse dans son pardessus en loque. Il lui fut demandé s'il déposait plainte ou s'il se portait partie civile. Il refusa, en proposant même au bougre qu'il n'avait qu'à passer dans sa boutique et de choisir gratuitement une paire de son choix pour dédommagement moral. Nous reviendrons ultérieurement sur d'autres tranches de vie, mais ce sont d'autres histoires. Saviez-vous que non seulement Genève et sa ville possèdent une histoire riche et millénaire, mais sa campagne aussi? Sortons des murs si vous le voulez bien. Ses campagnes et sa région nous révèlent d'autres événements, d'autres croyances. Peut-être la proximité de la nature toute-puissante procurait un sentiment mêlé de crainte, d'adoration dite païenne. Revenons donc sur un âge très lointain aux confins de l'humanité, où les témoignages sont souvent indistincts et souvent incomplets, car non verbaux, non écrits, mais souvent gravés dans la pierre ou d'autres signes profondément enfouis qui n'en révèlent qu'une infime partie. Lors d'une précédente chronique, j'avais abordé le sujet des pierres du Niton plantées dans la rade à quelques encablures du jardin anglais. Il faut savoir qu'il existe aussi d'autres mégalithes dispersés dans le canton. Toutes ont leur histoire, leur légende, leur symbolique. Je vous propose aujourd'hui d'aller faire un tour du côté de la pierre aux dames. Elles sont quatre, dames ou demoiselles, matrones ou virginales jeunes filles, un peu raides. Elles semblent former une garde d'honneur, un quatuor d'initiés. Le bloc où elles furent sculptées fut découvert près de Troisnais sous un tumulus détruit en 1877. Le sommet du tertre, où se dressait la pierre sculptée, dominait un ensemble funéraire, composé de quatre tombes, contenant sept squelettes. Sous la base du tumulus, on mit au jour des crânes fracassés, dont des études récentes révèlent qu'il s'agissait de deux hommes et deux femmes. La datation de ces trouvailles serait probablement la fin de l'âge de bronze, soit vers 800 avant Jésus-Christ, époque correspondant aux premières migrations celtiques dans notre région. Une quantité de légendes se développèrent autour de ces quatre dames. L'une d'entre elles court à leur sujet. L'un disait qu'il s'agissait de fées, symbolisant les quatre saisons. Des offrandes leur étaient faites aux solstices et aux équinoxes. En retour, elles leur apportaient les saisons et le rythme des cultures. Elles étaient considérées comme des fées bienveillantes et respectées, dont le culte est attesté dans nos régions. Une autre légende colportée par le temps parle d'un très bel homme vivant à Troisnais, sorte de barbe bleue locale, qui fit mourir de désespoir ses quatre épouses successives après les avoir abandonnées. À sa mort, on groupa autour de lui ses quatre femmes. Quant à la pierre elle-même, elle fut d'abord exposée au parc des Bastions. Vous pouvez la découvrir, si l'envie vous titille, au musée d'art et d'histoire. Il existe d'autres mégalithes dans tout le territoire du canton et le Genevois frontalier, mais ce sont d'autres histoires.
Bientôt, d'autres histoires.